Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, dans ce second cas, bienvenue, welcome, tout ce genre de choses, que 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer les petites images sonores ou musicales et qui bougent depuis déjà un temps, mais même moi j'étais pas né. C'est vous dire, même moi j'étais pas né quand ça a commencé à être illustré musicalement. Ce jour, dans 24 notes secondes, alors peut-être les aficionados le savent, eh bien nous allons faire une émission thématique, c'est-à-dire d'habitude on parle d'un compositeur, outrice, d'un acteur, outrice, d'un réalisateur, outrice, et là on va parler d'une thématique, outrice, non ça marche pas, d'une thématique et en l'espèce on va s'intéresser aux films consacrés à personnage un peu incontournable de l'histoire de France, en l'espèce celui que, dans le premier film que nous allons évoquer, on appelle Monsieur N, alias Napoléon Bonaparte. Alors, un personnage évidemment très très controversé. Personnellement, je n'ai pas une très grande sympathie pour l'homme qui a rétabli l'esclavage, mais par contre, le code civil, ce genre de choses. Ma foi, je vous laisse à votre appréciation de Napoléon et de Bonaparte et de Napoléon Bonaparte. Ce n'est pas le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est comment le cinéma, ô combien, s'est emparé du personnage et l'aura fait incarner par ô combien différents acteurs français, américains essentiellement, mais plein d'autres aussi. Bonaparte ou Napoléon Bonaparte, eh bien, on va le voir, rien qu'avec l'échantillonnage proposé ce jour de 24 notes secondes, il a de multiples visages et presque il y a, je dirais, un film par, pas au jour de vie de Napoléon Bonaparte, mais en tout cas, à mon avis, il y en a plusieurs dizaines à lui consacrées. On va commencer donc par Monsieur N, déjà évoqué. Monsieur N, c'est un film français d'Antoine Decaune, sorti en 2003. Alors, ne voyez pas trop de malice, mais on commence par la fin. C'est-à-dire que Monsieur N est consacré à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, après la défaite de Waterloo, ai-je besoin de vous le rappeler, et puis à sa mort dans des conditions restées bien mystérieuses, il faut le reconnaître. Et le film, quant à lui, eh bien, il débute quelques années plus tard, lors de l'exhumation de sa tombe sur l'île de Sainte-Hélène, presque 20 ans plus tard, avant que ses cendres ne soient portées à l'Hôtel des Invalides. Comme peut-être vous le savez, la nécropole de l'Hôtel des Invalides, c'est essentiellement une sorte de, pas vraiment un tombeau techniquement, mais un endroit donc, où on célèbre Napoléon. Assez laid, à vrai dire, comme endroit. Donc, Monsieur N, eh bien, c'est un film dans lequel Napoléon Bonaparte est interprété par le sémillant Philippe Torreton, qu'on a plus vu au théâtre et qu'on a plus vu chez Tavernier, mais ma foi, qui se débrouillait plutôt bien. À ses côtés, eh bien, il y a Hudson Lowe. Hudson Lowe, eh bien, c'est le fameux gouverneur de Sainte-Hélène avec lequel Napoléon entretint des rapports assez complexes, tels que rapportés notamment dans le fameux lui aussi Mémorial de Sainte-Hélène, encore un ouvrage sujet à caution sur la fin de la vie de Sainte-Hélène. Et Hudson Lowe, il est interprété dans le film par Richard Grant. Évidemment, il y a d'autres interprètes, évidemment assez peu, puisque par définition, cet exil, c'était pas non plus une surpopulation pour l'ex-empereur de tous les Français. La musique de ce film, alors ça c'est très étonnant, mais c'est comme ça, elle est composée par Stéphane Escher, notre Suisse national, je dirais presque, qui s'était égaré dans la musique de film. Je vous laisse juger de ce qu'il en est. Napoléon, Monsieur N, 24 secondes.
Yeah.
La vérité m'oblige à dire que même si je le maintiens, la musique de Monsieur N est bien signée de Stéphane Escher. Je ne suis pas certain que les polyphonies corses que nous venons d'entendre, Agnus Dei, c'était le titre du morceau, soient vraiment signées de Stéphane Escher. Je ne vois pas pourquoi on serait allé demander à Stéphane Escher de singer des polyphonies corses alors qu'il y en a et de très belles sans doute. Pour rappeler, ai-je besoin, que Monsieur N, alias Napoléon Bonaparte, notre héros du jour, il venait de Corse, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. On va enchaîner alors tout de suite sur un film très différent, alors qui cette fois est consacré à Bonaparte et non pas à Napoléon. D'ailleurs, le film s'appelle Adieu Bonaparte. Là encore, on pourra y trouver quelques traits d'ironie. C'est un film de Youssef Chahine, sorti en 1985, un film franco-égyptien et qui, comme on peut le supposer, eh bien, s'intéresse justement à la campagne d'Égypte du dit Bonaparte, une campagne menée en 1798 où Bonaparte envahit l'Égypte, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, on prendra un certain nombre de monuments pour les transposer à Paris, notamment place de la Concorde, si je me souviens bien. Mais en tout cas, à l'époque, et il le refera plusieurs fois par la suite, eh bien, Bonaparte se pose en libérateur de l'Égypte à l'époque oppressée par l'Empire turc. Il est accompagné du général Caffarelli et puis il est accompagné aussi, c'est peut-être ce qu'on retient le plus d'ailleurs de la fameuse campagne d'Égypte, d'un certain nombre de scientifiques qui eux, bon, a priori sont des scientifiques, on ne peut pas les accuser forcément de collaboration politique ou militaire et qui en profiteront pour faire un certain nombre de précieux relevés des merveilles égyptiennes antiques. Le personnage de Bonaparte est interprété dans le film par Patrice Chéreau. Alors là encore, plutôt un homme de théâtre qu'un homme de cinéma, même s'il a signé quelques films assez remarquables, comme notamment La Reine Margot, assez sanglante variation, avec Isabelle Adjani. Mais ma foi, Patrice Chéreau, c'est un Bonaparte, pardonnez-moi, à peu près aussi convaincant qu'un autre, et je dirais un peu de façon ironique, le rôle principal, c'est pas vraiment lui qui le tient, mais c'est plutôt Caffarelli, puisque Caffarelli, il est interprété Louis-Marie Maximilien de Caffarelli Dufalgue, si vous le préférez. Il est interprété par Michel Piccoli. Donc Michel Piccoli, bien, c'est lui qui tient le rôle principal d'Adieu Bonaparte, un film assez coûteux. Il me semble qu'à l'époque, le film avait bénéficié d'un soutien puissant du ministère de la Culture français, qui était à l'époque dirigé par Jack Lang, sans doute Jack Lang, bien connu. Donc un film un peu bancal, justement, de ce mélange entre les apports français et les apports égyptiens, mais qui, d'une certaine manière, brillait justement par ce côté bancal qui restituait tout à fait l'atmosphère. On écoute un extrait de la bande originale, ce qui permettra de retrouver le compositeur. Adieu Bonaparte dans 24 notes secondes. Voilà, un puissant extrait de la bande originale de Adieu Bonaparte, une musique signée Gabriel Yared. Pardon, hein, Gabriel Yared, l'homme du patient anglais, un Oscar de la meilleure musique de film, ça c'est rare pour un compositeur français qui a composé bien d'autres musiques de film. On s'en souviendra, notamment 37-2 le matin, sauf erreur de ma part, et qui donc signait la bande originale d'Adieu Bonaparte, un film de Youssef Chahine sorti en 1985 et dans lequel Napoléon Bonaparte, qui n'était encore, je ne sais pas, consul, on va dire, même pas, qui n'était que Bonaparte, si on peut, faisait la campagne d'Égypte en 1798. Et ben, on va rester dans l'histoire de France et on va rappeler donc en 1814, eh bien, celui qui entre-temps était devenu empereur sous le nom de Napoléon Ier, eh bien, avait été vaincu par les coalisés lors de la campagne de France. Et donc il abdiqua en 1814. Le roi Louis XVIII, dont je n'ai pas besoin de rappeler qu'il était un des frères de Louis XVI, guillotiné quelques années auparavant, monte sur le trône et l'empereur déchu est quant à lui exilé à l'île d'Elbe avant de revenir pour une période dont il faut reconnaître qu'elle a dû être assez magique, la fameuse période des 100 jours, c'est-à-dire le retour de l'empereur quelque part sur la côte méditerranéenne, sa remontée triomphale jusqu'à Paris, sa résurrection, et puis la bataille de Waterloo en Belgique. Waterloo, c'est en Belgique le 18 juin 1815, avec opposé deux commandants en chef d'exception, il faut bien le reconnaître, d'un côté Napoléon Ier et de l'autre le duc de Wellington, et on le sait, la défaite finale des troupes françaises pour des raisons que les historiens continuent encore à éplucher presque plus de deux siècles plus tard. En 1970, eh bien, on en fit un film de cette bataille de Waterloo. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là est de loin le plus cher. Il faut dire que, ironiquement, le producteur du film, qui n'était autre que Dino De Laurentiis, un grand producteur italien, ayant eu beaucoup de mal à réunir le budget colossal nécessité par la production, eh bien, il se tourna, aussi curieux que ça paraisse, vers l'armée soviétique et vers le gouvernement russe, qui accepta, là encore, aussi curieux que ça paraisse, eh bien, non seulement de financer le film, ce qui était un apport intéressant mais pas décisif, mais surtout de pourvoir le film en figurant de l'armée soviétique. Il y en eut près de 20 000, et ce qui permit donc une reconstitution de qualité. Apparemment, les historiens continuent à louer, plus de 50 ans plus tard, la qualité et la précision. Il faut dire qu'avec 20 000 personnes sur le terrain, ben, on peut arriver à retrouver une bonne véracité historique pour les uniformes, les armes, et surtout pour les tactiques, puisque la bataille et la défaite de Waterloo, ben, ce fut surtout une bataille tactique entre deux hommes d'exception, je l'ai déjà dit, Wellington, interprété dans le film par Christopher Plummer, et Napoléon Ier, interprété par Rod Steiger. Là encore, on a vraiment eu toutes les figures possibles. Rod Steiger, le fameux interprète de Dans la chaleur de la nuit aux côtés de Sidney Poitier. Alors je vais être désagréable, mais il y a au moins un point commun entre Patrice Chéreau et Rod Steiger, c'est que tous les deux étaient de petite taille. Il me semble que c'était le cas aussi de Napoléon, non. Cerise sur le gâteau, le rôle de Louis XVIII était interprété, alors là par contre, on est quand même fort loin de la vérité historique, par Orson Welles lui-même. Mais il fallait bien réunir de grosses vedettes pour un film très coûteux qui, ma foi, était de belle tenue pour ceux qui aiment Napoléon, pour ceux qui aiment les batailles, pour ceux qui aiment ce genre de choses. Et le film était évidemment réalisé par un soviétique, en l'espèce par Sergueï Bondartchouk, qui fut dans les années 70 un des grands réalisateurs russes et auquel on confia des budgets considérables pour des films qui n'étaient pas moins. On écoute un extrait de la bande originale de Waterloo, je l'ai déjà dit, elle était signée, elle, Dino De Laurentiis, aidant de Nino Rota dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale de Waterloo. Non, de Waterloo, c'est mieux, parce que Waterloo, c'est plutôt une chanson d'Abba que j'adore. Enfin, j'adore Abba, de toute façon. Un film tourné en 1970 par Sergueï Bondarchouk, donc une grosse production, grâce à, aussi ironique que ça paraisse au regard de l'histoire, grâce à l'apport soviétique à l'époque, c'était quand même les soviétiques. Ross Tiger interprétait Napoléon Ier. À ses côtés, il y avait Christopher Plummer, Orson Welles et quelques autres, évidemment. La vérité historique de la bataille semblait respectée. Pour le reste, on en est un peu moins sûr. Alors, la même remarque vaut pour le film suivant. Alors, celui-là, il date de 2023. On pouvait guère faire plus récent. C'est un film de Ridley Scott qui est quand même un peu abonné, le gars, aux fresques historiques. Et en 2023, donc, Ridley Scott s'attaqua à nouveau à une vie de Napoléon. Alors, le film est tout simplement intitulé Napoléon. Et le rôle principal, il est interprété par Joaquin Phoenix, qui n'est certes pas besoin de présenter Joaquin Phoenix, ce fut le Joker, ce fut bien d'autres personnages, un homme multiforme et comme tous les grands acteurs, eh bien, capable d'interpréter Napoléon Bonaparte. La vérité historique, cette fois, oblige à préciser que le chroniqueur de 24 notes secondes n'a pas vu le dit film, du coup il ne peut pas en avoir un jugement autre que rapporté. Quand même, il paraît que le film s'ouvre sur la phrase que je cite « La misère qui règne en France a conduit à la Révolution française qui a elle-même engendré davantage de misère ». Donc comme ça, au moins on sait dans quel camp se trouvent les scénaristes du film. Ils se trouvent dans le camp dickensien qui considère la Révolution française comme une calamité sanglante. Et apparemment, il en est de même un peu dans le film et avec un homme providentiel qui apparaît en l'espèce Bonaparte puis Napoléon. Autre chose, apparemment, le film est rapporté, ça c'est très américain, je trouve, sous l'angle amoureux, passionnel de la relation entre Napoléon et Joséphine de Beauharnais. Je suis bien désolé, mais moi qui ai vécu en Martinique, Joséphine de Beauharnais, on l'appelait la putain créole, c'était le nom qu'on lui donnait dans son île natale, la Martinique. Bref, le film s'oriente autour de ses passions amoureuses, qui est un prisme sans doute un peu mesquin pour aborder la vie et la carrière de Napoléon, qui est constitué, on n'en doute pas, avec un luxe de moyens numériques conséquents, puisqu'on voit dans le film, qui est fort long, 2h30 je crois, on y voit le siège de Toulon, la bataille d'Austerlitz et évidemment celle de Waterloo. Il y a quelques acteurs français dans le film. Le duc de Wellington, déjà cité à propos de Waterloo, est interprété par Rupert Everett, cher Rupert Everett, ma foi, pourquoi pas. Et comme je n'ai pas vu le film, je ne vais pas en dire plus. Juste citer quelques mots de la promotion interview que Ridley Scott consacrait donc à son film en disant à propos de Joaquin, aucun acteur ne pourra jamais incarner Napoléon comme Joaquin, évidemment. Il a créé l'un des empereurs les plus complexes de l'histoire du cinéma, Commode dans Gladiator, sous-entendu que j'ai moi-même réalisé et qui est aussi un très très grand film. Et pendant toute sa vie, il menait, Napoléon, une guerre amoureuse avec sa femme adultère, Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour. Et comme il ne le pouvait pas, il l'a conquis pour la détruire et s'est détruit dans le processus. Mon gars, peut-être qu'il faut consulter un psy. On écoute un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée Martin Phillips, Napoléon, dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la Il faut le reconnaître, belle partition de Martin Phipps pour le Napoléon de Ridley Scott tourné en 2023. Et comme j'étais très bavard, on va se quitter assez rapidement en écoutant un extrait de la bande originale d'un film qui n'est pas une évocation directe de Napoléon, mais une adaptation de Guerre et paix de Léon Tolstoï, roman sorti en 1865. Dans ce film, Napoléon est interprété par Herbert Lom, vous savez, celui qui était le souffre-douleur de Peter Sellers dans La Panthère Rose. Donc, ma foi, on peut avoir des rôles très différents. Il y avait dans les rôles principaux Audrey Hepburn et son époux de l'époque, Mel Ferrer, Henry Fonda. Une adaptation grandiose du roman de Tolstoï signé King Vidor, le tout en 1956 et avec une musique de Nino Rota dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.